Tête pour commencer, comme pour la précédente table ronde, on va faire un peu de table. Vous connaissez Olivier, peut-être on commence par vous. Prenez votre temps, allez-y.
Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Olivier Babot, je suis professeur à l'université, mais c'est plutôt au titre de créateur de l'Institut Sapiens que je suis ici. L'Institut Sapiens, c'est la première SIGTECH française et probablement la dernière puisqu'on a déposé le mot SIGTECH. C'est-à-dire que nous avons voulu révolutionner ou changer la façon dont on produisait de la pensée, dont les think tanks fonctionnaient en France. Et je trouve qu'on y est très très modestement, mais plutôt pas mal arrivé. Donc on n'a que deux ans et quelques jours en réalité. Tout le monde pense qu'on est là depuis très longtemps, mais on n'a vraiment que deux ans. Et aujourd'hui, alors c'est quoi les performances indicateurs pour un think tank? C'est évidemment pas le chiffre d'affaires puisqu'on ne vend rien. On a des employés, on a une centaine d'experts. Disons qu'un des indicateurs, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, une à deux fois, en fait, entre 1,5 et deux fois par jour, nous ne sommes pas par jour, vraiment par jour, depuis notre création, nous sommes présents dans les médias nationaux, télévision, journaux, donc les Échos, Le Monde, Le Figaro, BFM, etc. En moyenne, entre 1 et 2 fois par jour. Donc il n'y a pas une journée où on n'est pas cité, on n'est pas présent, où on ne relaye pas notre production intellectuelle, parce que finalement, c'est ce qu'on fait. Notre slogan, c'est le slogan Deadline, c'est pour que l'avenir ait besoin de nous, dans un monde technologique qui avance énormément, on essaie de garder l'humain au centre. C'est pour ça que ça s'appelle Sapiens.
Bravo Olivier. Isabelle, peut-être que vous nous présentez vous-même et Prairie.
Bonjour, donc merci également pour l'invitation. Donc je suis également professeure d'université en informatique, plutôt sécurité, privacy, sûreté de fonctionnement. Et donc j'ai dévié il y a quelques années de ça. Et donc je suis actuellement directrice de l'Institut Prairie, qui est un des quatre instituts 3IA. Vous avez sûrement entendu parler du plan national d'intelligence artificielle. Donc il y a quatre instituts qui ont été créés, Sofia, Grenoble, Toulouse et Paris. Donc celui-ci s'appelle Prairie. Qui est un institut de recherche d'intelligence artificielle, donc côté techno, là pour le coup, moi je représente le côté technologique, mais en lien étroit avec des entreprises, puisqu'on a actuellement 17 grands groupes qui nous sponsorisent. Donc on met le recherche fondamentale qu'on veut du meilleur niveau international, formation des étudiants, et puis lien avec les entreprises.
Bravo, belle mission. Christophe, tu nous parles de Lingso et puis de toi.
Merci Thierry pour l'invitation. Donc Christophe Martin, je suis directeur général de Lingso. Lingso, en fait, on a deux métiers principaux. Le premier, c'est qu'on fournit l'accès, les technologies d'accès sécurisées aux données bancaires et à l'initiation de paiement. Donc on va en reparler. C'est grâce à ça que des sociétés peuvent proposer la gestion de budget, de l'accès aux comptes, etc. Le deuxième métier, c'est qu'on a aussi une application mobile qui s'appelle Lingso et qui est un assistant financier avec 3 millions d'utilisateurs en France qui permet de gérer intelligemment son argent, tout son argent, donc tous ses comptes, compte bancaire, carte, crédit et épargne, et de fournir beaucoup de recommandations par rapport à ça.
Bonjour à tous, Damien Guérin-Montpré, je suis Business Angel, j'ai investi dans 25 sociétés dont la moitié sont des fintechs. J'en dirige une en tant que président de l'Emonoué, établissement de paiement français, régulé en France mais actif sur 28 pays. Et notre rôle, c'est d'être établissement de paiement pour les marketplaces B2B, B2C, C2C et les places de marché financières comme le crowdfunding, crowdlending, crowdequity, les cagnottes en tout genre, de listes de mariage, etc. Donc il y a des milliers de places de marché qui font appel à nos services, et nous sommes tour de contrôle pour savoir d'où vient l'argent et où va l'argent. On cantonne l'argent des clients pour les protéger avant que les biens et services n'aient été livrés. Voilà, donc on accompagne l'acte d'achat. On a ouvert 8 millions de comptes, et c'est transparent, et on vous expliquera la suite.
Très bien, merci Damien. Peut-être on va démarrer, Christophe, avec ces 3 millions de clients, 3 millions de drones qui acceptent de donner accès à leur compte bancaire à une société qui n'existait pas il y a 10 ans et dont ils connaissent à peine le nom. Qu'est-ce qui fait que les gens acceptent de donner accès à un tiers à leurs données de compte bancaire qui sont en fait le reflet de leur vie, hein, vous voyez absolument tout sur ces gens-là.
Oui, c'est la question fondamentale du pourquoi. Pourquoi les gens donnent accès? Alors, il y a un point déjà, c'est qu'ils donnent accès à la donnée, mais ils ne donnent pas la donnée. La donnée leur appartient, on l'a rappelé beaucoup ce matin, mais ça c'est vraiment un élément qui est fondamental, c'est que la donnée appartient à l'utilisateur. Et pourquoi ils donnent accès à la donnée? C'est tout simplement, entre guillemets, pour avoir une valeur qu'il n'a pas habituellement. Quand l'INSO est né, il y a presque 10 ans maintenant, l'idée, c'était quand vous n'aviez pas la réponse à vos questions de base, où part mon argent chaque mois, est-ce que je peux économiser, combien. Les questions de base, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à processer, à calculer soi-même. Et alors, pour peu qu'on ait plusieurs comptes bancaires, c'est juste impossible à faire. Personne ne le fait. Donc, le premier élément, c'est voilà, ça crée de la valeur pour l'utilisateur. C'est quelque chose qui lui permet de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant, de devenir beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fluide. On parlait tout à l'heure de. Je crois que c'était un email d'Everything. En fait, chez Inso, ça fait 10 ans que les gens ils sont déjà dans cette logique de un domaine d'Everything, c'est-à-dire pourquoi je devrais aller voir A, B, C et D pour avoir une vision d'ensemble de mon argent. Donc, et c'est ce qui fait que les gens donnent accès. Le deuxième élément, c'est il y a un facteur de sécurité, donc de confiance, qui est très très important. Aujourd'hui, on est un établissement agréé par la CPR. Oxlim, qui est l'établissement de paiement, la filiale qui a été créée pour ça, elle est contrôlée par la CPR, donc la Banque de France, donc comme les banques. Avant la réglementation dite DSP2, on était déjà security by design, et ça allait, on anticipait même sur, RGPD n'existait pas à l'époque, mais on permettait déjà aux gens, parce que ce sont eux qui sont propriétaires de leurs données, de supprimer leurs données. Donc on avait d'ailleurs des gens qui au départ de l'histoire de l'ISO testaient, synchroniser leur compte, supprimer, et puis après ils revenaient se connecter, voir si on n'avait pas gardé quelque chose. En fait, on n'avait rien gardé. Et encore récemment, un jour, il y a une cliente qui nous a écrit en nous disant j'ai supprimé mes données par erreur, comment je peux les retrouver? Et donc, on lui répond que c'est pas possible, etc., par email, et on envoie un recommandé pour dire mais j'ai supprimé mes données, mais vous devez les avoir quelque part. Non, en fait, quand on supprime les données, on les supprime définitivement. Donc, ça fait partie de la confiance qui va avec le fait de donner accès.
D'accord. Donc, si je t'écoute naïvement, en fait, je comprends que c'est parce que vous êtes agréé par la Banque de France que les gens vous donnent accès à la donnée.
Non, en fait, ça, c'est le dernier élément. Le premier, c'est vraiment parce qu'on leur apporte quelque chose.
Ah, d'accord. Alors, Olivier, peut-être que cet accès à la donnée vous évoque quelques réflexions en tant que chercheur.
En fait, le paradoxe du consommateur, c'est celui de la Boétie dans la servitude volontaire. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de paradoxe. C'est-à-dire que le consommateur, la plupart du temps, la réalité, c'est qu'ils s'en foutent complètement de la privacy, mis à part une petite élite de gens, dont évidemment, dans cette salle, vous faites tous partie, mais la plupart des gens s'en fichent complètement. Il y a un livre extraordinaire de Hanson qui s'appelle « The Elephant in the Brain », qui explique en fait les dynamiques cachées de nos actions. Évidemment, le rule of the game, c'est mating, hein, c'est la reproduction réelle. Et puis la réalité, c'est des jeux de soumission et des jeux politiques. Et puis derrière, notre conscience, dit-il, n'est que le press secretary, un petit peu comme le porte-parole, celui qui va toujours être là pour justifier nos actions, mais en réalité, ne va pas contrôler ce que fait derrière le gouvernement, ce qui est la réalité de nos actions. Le problème, il est toujours le même depuis très longtemps, c'est qu'on a un cerveau du paléolithique, on a des institutions du Moyen-Âge, et on a des technologies dignes des dieux, de plus en plus dignes des dieux. Notre cerveau, malheureusement, il est toujours du paléolithique, parce qu'il a toujours de moins 100 000 ans, et les institutions, elles mettent beaucoup de temps à se moderniser, malheureusement. C'est Darwin qui disait « L'homme porte encore dans la structure de son corps la trace indélébile de son humble origine. » Et le problème de notre humble origine, c'est le principe de la plus grande pente, le principe de la facilité, et on s'y abandonne complètement. Vous connaissez cette histoire, la taille de l'hippocampe des chauffeurs de taxi à Londres a diminué, on a mesuré, parce que c'est là qu'il y a la mémoire spatiale, a diminué depuis qu'ils utilisent le GPS. Notre cerveau est un outil merveilleux, mais dès qu'il peut ne pas faire un truc, il ne le fait pas, et c'est avec très très grand succès, parce que toutes les technologies sont là pour nous permettre de ne plus faire les choses. On voit que dans les écoles Montessori, ils sont obligés de remettre des jeux où on visse des boulons, parce qu'on est en train de perdre, les enfants perdent la dextérité fine. La maîtresse d'un de mes fils a dit, mais il faut les sortir, les enfants, pas les meilleurs spécialement, mais les enfants, elle était là depuis 30 ans. Elle a constaté qu'aujourd'hui, les enfants ne savent plus attraper un ballon. Parce qu'ils ne sortent pas assez. Alors qu'autrefois, c'était partie des choses qu'on acquérait très, très facilement. Et ce n'est pas un délire de déguiniste hein, que je vous raconte, parce qu'il y a des données hyper inquiétantes, hyper récentes de l'éducation nationale. Les capacités des enfants de 2 à 11 ans depuis 2010 les problèmes liés à la parole et au langage ont fait plus 92% en 10 ans, en 7 ans, parce que la stat c'est en 2017. En 7 ans, plus 92%, donc quasi doublement des problèmes liés aux paroles et au langage, plus 21% des problèmes cognitifs. Depuis 1987, les capacités à faire des additions, à réussir une addition en CM2, 90% en 82, en 2017 c'était 69%. On pourrait multiplier ces exemples. Le grand problème c'est quoi? Vous avez peut-être vu au tout début de l'année cette image saisissante de l'encyclopédie universaliste qui était sur le trottoir. Aujourd'hui ça vaut plus rien. Autrefois vous avez des VRP qui venaient vous vendre chaque truc, c'était hyper cher, c'était précieux. Le savoir c'était précieux. Avec Internet, on a eu plein de désillusions, on pourrait en parler de plein d'autres, mais il y en a eu notamment une, on a pensé que ça mettait tout le savoir du monde, toute la connaissance, toute la compétence à portée de tout le monde. Le problème c'est que one click away, c'est one click too many pour beaucoup de gens. Tout le savoir il est gratos. Vous pouvez y aller, vous pouvez tout trouver, vous pouvez avoir l'intégralité de la littérature mondiale en quelques clics. Et c'est gratuit à qui a le moindre portable, le moindre smartphone de gamme ou un accès à Internet assez facilement. Malheureusement, ça n'a pas du tout augmenté ou réparti le savoir. Au contraire, ça l'a encore plus rendu concentré, ces principes d'Anderson, à l'envers. Hein. C'est la fin de l'idée de la grande traîne du savoir ou de la diffusion des produits. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas pour la diffusion, pour les pouvoirs de marché, et ça ne marche pas non plus pour la diffusion du savoir. Le Point, hier, a sorti une stat complètement dingue. Un Français sur 10 n'a jamais entendu parler de Shoah. Voilà. Alors, les mecs, où est-ce qu'ils vivent? Si il y en a dans cette salle, venez me voir, je vous fais une formation rapide. Il y a un vrai problème, quand même. 9% des Français pensent aussi que les Français pensent que la Terre est plate. Le savoir ne s'est pas démocratisé, et malheureusement, on est dans un monde où la technologie exige de nous qu'on soit de plus en plus fort avec une autodiscipline de dingue, et c'est le contraire qui se passe. Donc en réalité, le paradoxe, il n'y en a pas, c'est qu'on va se livrer au bout d'un moment à notre fournisseur unique, parce que notre grand fantasme, c'est d'avoir un fournisseur unique. La technologie, ça devait être notre serviteur, c'est un excellent serviteur, et malheureusement, ça devient trop souvent notre maître.
C'est par facilité qu'on laisse accès à cette donnée. Et on n'a pas de crainte. Pas de crainte que cette donnée, donc, donne s'en fout complètement.
Fondamentalement aucune. Et puis, en fait, on a compris, il n'y a pas de différence entre les données sensibles et les autres. Toutes les données sont sensibles. Les banquiers savent très très bien qu'il y en a un qui m'a dit on peut prévoir les divorces 2 mois à l'avance. On sait tout de vous, si on a vos déplacements, ce que vous faites sur Internet, c'est très très facile, toutes les données sont sensibles. Il n'y a pas que les données de santé, à la limite les données de santé c'est peut-être pas les plus intéressantes de l'affaire. Et en réalité, la plupart des gens, dans leur comportement, s'en rend bien compte, non seulement s'en fiche, mais exhibent, ressortent encore plus, que ça fait partie de votre surface sociale. Et donc, de temps en temps, on dit « oh là là, ce serait bien la privacy », mais j'ai l'impression que c'est un effet de loupe. C'est un peu comme la liberté. La liberté, je pense que c'est en réalité un luxe d'intellectuel occidental, de plus en plus. De quelques mecs au Faubourg Saint-Germain qui peuvent en parler, c'est assez sympa, mais en réalité, je ne crois pas que ça fasse un marché. Il y a un petit marché peut-être, hein. Il y a un petit marché pour des VPN, pour des trucs, mais c'est tout petit, c'est à la marge, quoi. C'est une niche.
Voilà. Alors je suis d'accord, on sait tout sur tout le monde, et les régulateurs, les règles, il y a une inflation dans les règles, en profite bien et demande à certains tiers de confiance que nous sommes de collecter, d'ouvrir des comptes et finalement il y a une inflation dans les comptes ouverts par les gens. Les gens ouvrent des comptes, mais par millions.
Y compris des comptes Lydia d'ailleurs.
Oui, et nous, les mêmes comptes chez nous, on a quand même 8 millions. D'accord, Lydia a peut-être 3 millions, mais ils sont connus. Nous, on les ouvre, ça, d'un point de vue réglementaire, c'est le même compte de paiement, mais il est transparent, puisque l'acte d'achat est transparent. Et on ne fait que, finalement, coller à la réalité. Maintenant, donc, les gens veulent faire, vendre leur fringue. Donc, par exemple, avec Kiabi, on lance un Vinted-like. D'accord ? Ils veulent louer leur vélo. Donc, avec WeBike, on loue les vélos. Ils veulent faire du leasing. Ils veulent faire quoi ? On passe notre vie, finalement, à coller aux besoins des bases de marché, de docteurs, des bases de marché, d'architectes, de talents, de profs. Et toutes ces bases de marché ont besoin d'un tiers de confiance. Et le gouvernement continue. Il nous demande, par exemple, de collecter demain les dépôts de location. Parce que vous savez que les Français ne paient pas leur dernier mois de location, ne peuvent pas récupérer leurs dépôts. Donc, il y a un tiers de confiance, comme nous, qui allons le collecter. Les tiers payants, pareil. Collecter l'argent. d'argent finalement qu'à il faut vite aller débiter l'assurance santé pour rembourser l'opticien qui a fait une avance en vous donnant une paire de lunettes gratuites. Bref. Donc on va coller aux besoins des clients dans leur acte d'achat et en même temps on va collecter un maximum d'informations parce qu'on doit faire un KYC pour lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude, le financement du terrorisme. Et on se fait attaquer par ça, pour ça. Donc nous, on va collecter, on va interroger des tonnes de bases de données privées ou publiques pour savoir si les gens sont des politiquement exposés. Et lorsque, par exemple, nous, on gère toutes les listes de mariage en Europe. Donc lorsque M. Macron va faire un cadeau, un certain montant, évidemment, ça fait un pop-up. Je le vois. Je vois tous les cadeaux des listes de mariage en Europe. Donc ça paraît dingue quand on y pense. D'accord ? Mais c'est mon indication. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un enrichissement personnel d'une toute personne politiquement exposée. Un député, un maire, un président. D'accord ? Donc finalement, il y a, en effet, on sait tout sur tout le monde, et il y a une inflation des contraintes réglementaires et des règlements. Et alors tout ça, ça va très très vite, hein, parce que moi j'ai besoin de mon collègue à droite. Vous savez ce qui va se passer ? Donc, ils vont pouvoir initier des paiements. D'accord ? Et moi, je vais lui demander finalement d'initier des paiements avec l'accord de son client qui va piocher dans ses comptes des paramètres pour aller investir dans un site de crowdlending comme October par exemple. Et tout ça, ça va se faire de compte à compte, compte Société Générale vers compte du porteur de projet ou de l'emprunteur October, sans passer par les réseaux Visa Mastercard. Et c'est la raison pour laquelle Visa vient de débourser 5 milliards pour une start-up qui est connectée, elle, à 11 000 banques dans le monde. Et on va faire du compte à compte, sans passer par Visa ou Mastercard. Vous comprenez ? Tout va très vite, tout s'accélère à une vitesse folle.
Alors Damien, tu sais tout sur tout le monde, donc la liste de mariage, les locations de... Ah, et tout ça, sur combien de pays tu nous as dit ?
C'est mondial.
Mais toi,
c'est nous, pas... Non, mais nous, on ne peut servir que... Les places de marché, enfin, les établissements européens, sur 28 pays tout de même, mais on va collecter l'argent du monde entier. Et payer le monde entier. C'est mondial, c'est la planète.
D'accord. Donc, tu connais tout sur tout le monde, au travers des flux financiers. D'ailleurs, j'ai vu un flux des monnaies sur mon compte ce matin, parce que je me suis fait rembourser par la Massif d'un truc de loyauté, enfin, bon, peu importe. Mais c'était le.
Massif d'avantage.
Massif avantage, tac, ça y est, tu sais où je vais en vacances, parce que c'était un truc d'hôtel. Bon, tu sais tout, mais c'est...
Si tu veux lutter contre le blanchiment d'argent, c'est forcément mondial, d'accord ? Parce qu'il faut geler les actifs de M. Kadhafi, etc.
Mais moi, je veux rien, comme disait Olivier, je m'en fous. Mais moi, le consommateur, hein, je veux dire. Mais par contre, il y a un truc qui m'intéresse, c'est toute cette donnée que tu collectes, qui est quand même très sensible, même si tout est sensible, elle est bien protégée.
Oui, alors ça c'est vraiment une attention particulière de la CPR, de TRACFIN, de l'AMF, etc. C'est ça, s'assurer qu'on résiste bien au ce qu'on appelle pen test, penetration test. Oui, ça c'est hosté, de toute façon c'est hébergé chez Amazon ou NTT, enfin des gens qui sont habillables. Et surtout on est PCI DSS tous, sinon on ne peut pas travailler dans ce métier de la finance.
Alors Isabelle, vous êtes le côté très très technique de notre panel, ça vous intéresse au plus haut point, ou la sécurité de ces données qui grandissent à vitesse exponentielle, qui sont stockées sur des sites propriétaires ou dans le cloud, je ne sais pas si vous êtes dans le cloud, qui sont dans le cloud. Comment vous regardez ça, vous qui allez très près, plus près de la sécurité ?
Alors, je connais techno, puis je viens de m'apercevoir aussi que j'étais la fille de la matinée.
Je ne voulais pas insister là-dessus, c'est pour ça que j'ai mis le côté techno, je croyais que c'était plus élégant.
Donc, sur les données, tout ce qui s'est dit avant, effectivement, je pense que les gens n'ont pas conscience du risque de leurs données et du risque d'exposition vis-à-vis de tiers comme ça qui sont un peu loin du commun des mortels, c'est-à-dire que Amazon avait donné, bon, je ne sais pas si ça change ma vie. Là, quand on commence à parler éventuellement le fisc, éventuellement, ça commence à titiller un peu les gens, et parce que c'est un impact direct. Et tout ce qui est sécurité, c'est évidemment un risque majeur dont les gens n'ont pas la moindre idée. Alors, on est face à des acteurs différents. Vous citiez 2000, un chiffre que je ne connaissais pas au départ, 2000
entreprises,
voilà, plein, qui ont des données sur nous. Je pense qu'il y a vraiment des normes de sécurité extrêmement différentes et des prérequis très différents. Et sauf que les gens n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'ils étalent leurs données de la même manière, sans vérifier les agréments, les hébergements et les différentes choses. Sur les, on en parlait tout à l'heure, sur le cloud. Alors le cloud, ce n'est pas mon métier du tout. Je suis toujours très sceptique quand j'entends « oui, mais c'est sur des serveurs en France ». Les acteurs du cloud qui sont capables d'assurer que leur balance de charge de trafic est bien maîtrisée sur un pays donné, je ne sais pas comment ils font, mais ça m'impressionne. Et donc effectivement, si on est face à des grands acteurs certifiés, etc., qui s'occupent de banques, effectivement de crimes internationaux, ok, je suis sûre qu'ils ont des procédures. Si on parle du commerce du coin ou du site d'achat en ligne pour les vêtements des ados, je suis moins sûre que ce soit le cas. Et ça, les gens n'ont pas conscience. Et on a parlé tout à l'heure du paléolithique, hein, donc je pense que moi, ça y est, je suis rentrée dans la catégorie dinosaure. Ce qui m'effraie, ce sont les adolescents. Ils ont aujourd'hui une attitude de consommation qui fait qu'ils sont prêts à donner leurs données à n'importe qui pour un service, une musique, un cadeau quelconque. Et ils n'ont pas conscience du tout de l'impact que ça a. J'ai une amie qui a une fille de 14 ans la semaine dernière, lundi soir, elle a posté une photo d'elle sur Instagram, alors pas nue, mais enfin pas assez habillée au bout de ses parents. Donc les parents lui ont fait enlever la photo immédiatement, et en fait le mardi, elle s'est aperçue que tout le lycée l'avait. Parce qu'en fait, évidemment, Instagram, hop, copie d'écran, passage par WhatsApp et autres, ils n'utilisent pas WhatsApp, ils sont plus modernes que ça, donc par messagerie, voilà. À tous les copains. Donc le mardi soir, hop, l'adolescente se fait choper par la maman qui lui explique la vie et que c'est quand même pas un truc à faire. Et si la mère est administrateur système et Et la réponse de la fille, c'est pas grave, d'ici une semaine, ils seront passés à autre chose. Donc effectivement, elle m'a dit, à partir de là, que veux-tu que je fasse?
Pourquoi le « on s'en fout » d'Olivier?
Dans une société d'instantané, on oublie, on fera autre chose demain, c'est pas grave. Et alors lui demander ce qu'Instagram va faire de sa photo, ce que Facebook fait de cette donnée, de ce que c'est à sa tâche, c'est pas Facebook, mais pas pour les réseaux sociaux, elle s'en fiche. Effectivement, le fait que le copain de classe ou la copine de classe puisse la voir, ça peut éventuellement l'interpeller. Mais le fait qu'un géant en Chine, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs collecte ces données, ils n'en ont vraiment aucune importance. Et je pense que ça, c'est un problème d'éducation. La communauté informatique française s'est battue depuis, je crois que ça a commencé en 84, pour qu'il y ait une introduction de cours d'informatique à tous les niveaux, alors ça y est, ça commence. Mais pour moi, c'est du cours sanitaire. C'est juste de leur apprendre ce qui se passe avec une donnée, ce qui se passe si elle est divulguée, et ce qui se passe si elle reste. Et ça, aujourd'hui, c'est pas le cas.
Alors, est-ce que vous comprenez qu'on fait tout ça pour protéger les gens aussi? On fait tout ça pour protéger notre démocratie.
Mais qui?
L'État, l'Europe, crée des règles avec des tiers de confiance pour justement protéger les citoyens, les consommateurs, les organisations. Je vous donne un exemple. Eloasso, 80 000 associations gérées en France, collectent la cotisation. Ils avaient oublié simplement de donner le flux à un tiers de confiance. Tracfin leur dit un vendredi, il faut que lundi ça soit fait. On est le week-end, ils nous ont envoyé, on a dû faire 80 000 KYC dans le mois qui suivait. En tout cas, le lundi, les flux étaient chez nous. Et évidemment, on a évité de prendre 150 comptes d'associations qui construisaient, peut-être ou peut-être pas, des mosquées. Est-ce qu'on ne va pas vérifier si chacune des associations est en train de construire sa mosquée ou pas? Voilà. Donc, si on veut lutter contre le terrorisme, le financement du terrorisme, on est obligé de prendre des mesures un peu radicales, parfois, voilà. Mais au moins, on l'a fait. Et c'est bien pour protéger, finalement, le financement du terrorisme que Tracfin veut absolument que ces associations soient gérées par un tiers de confiance, en termes de paiement.
Alors, moi, je suis côté sécurité. Je dis juste que ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est le peu d'éducation et le peu de conscience de l'environnement de la plupart des gens, et des adolescents en particulier. Les adolescents ne vont pas choisir le service de paiement sécurisé hébergé en Europe qui leur donne une confiance, ils vont choisir le moins cher, celui sur lequel il y aura des remises, des bons cadeaux ou je ne sais quel service en plus. Ils ne sont pas éduqués à comprendre que c'est important. Ils ne sont pas prêts à avoir un service un peu dégradé ou un peu moins bon, mais en apparence, mais de meilleure qualité en termes justement d'assurance, de traçabilité, de sécurité.
Par contre, on est quand même dans un monde en évolution, et ce que disent à la fois Christophe et Damien sur cette notion de tiers de confiance qui apparaît relativement évidente sur le domaine financier dans lequel le régulateur et le superviseur sont assez attachés, on pourrait penser que ça peut s'étendre à d'autres types de données, aux photos de la fille de votre copine administrateur de sécurité ou aux différentes locations de Airbnb que l'on peut faire, etc. Cette notion de tiers de confiance, dont on sent bien qu'elle n'est pas complètement répandue, puisque aucun d'entre vous peut citer 2000 fournisseurs ou hébergeurs de données les concernant, c'est quelque chose qui pourrait apparaître dans le futur. Vous en pensez quoi, Olivier ? Sans trop de citations non plus
J'en avais plein pourtant. Non mais c'est très intéressant. Je viens de comprendre qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est dans un monde qui n'oublie rien qu'on est dans un monde qui retient quoi que ce soit. Non mais c'est ça le paradoxe. On est dans un monde qui n'oublie rien mais qui ne retient rien non plus. Parce que justement, finalement, c'est assez logique. On voit dans l'actualité, une actualité pousse l'autre. Aujourd'hui, si un jour vous êtes dans l'actualité, dans la machine à laver d'une actu, t'as envie de dire, débranche ton Twitter. Une journée, de toute façon un tweet qui a 15 minutes il est considéré comme vieux, donc de toute façon on laisse passer le truc, on ne retient plus rien puisqu'on est dans une sorte de flux ininterrompu. L'idée du tiers de confiance, j'ai plutôt l'impression que est-ce que la question qui se pose c'est l'idée de faire le bien des gens contre eux-mêmes en réalité, est-ce que c'est pas une forme de limitation de leur libre arbitre, c'est ça tu ne peux pas le faire, ou ça c'est interdit. Le RGPD aujourd'hui, c'est une blague sexiste, je suis désolé, quelle est la différence entre une dispute avec votre femme et les recommandations du RGPD quand vous tombez sur un site ? Dans les deux cas, vous ne comprenez rien et vous finissez par dire « I agree ». Finalement, c'est à peu près ça. C'est ça que ça a rajouté, fondamentalement. C'est, tu vas avoir accès au truc, tu dis « oui, ok, très bien ». Mais fondamentalement, personne n'a rien compris. Je ne sais pas très bien ce que ça a changé. Et le problème, c'est que, de toute façon, c'est un problème de contrôle. Et en effet, le tiers de confiance, il est là pour garantir que le contrôle ne soit pas pernicieux. C'est le vrai problème qu'on pose aujourd'hui. Avant, on disait, il suffit de parler aux gens et de les éduquer. Bon, on n'y croit plus tellement. Après, il y a eu le nudge, c'est on va vous faire un petit truc pour que vous fassiez la bonne chose. Et puis aujourd'hui, finalement, l'algo, c'est une autre façon. C'est une sorte de retournement complet. Vous savez, c'est 80% de ce que vous regardez sur Netflix vient de l'algo. 30% de ce que vous achetez sur Amazon est recommandé par l'algorithme. L'algorithme, c'est hyper pernicieux. C'est pas on va essayer de vous donner un nudge, c'est on va vous présenter une image de la réalité qui va vous correspondre et qui va faire que vous allez acheter. Et ça, sans que vous en soyez conscient. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on va sur Internet et que Google nous donne une image de la réalité. Évidemment, ce n'est pas la réalité d'Internet, c'est une interprétation d'Internet qui est orientée. Et donc, qui va être là, en dernier ressort, pour garantir la représentation, en quelque sorte, pour empêcher, par exemple, des discours négationnistes ou des façons de tourner la réalité. Et ce matin, je faisais une conférence avec mon ami Nicolas Bouzou, il y avait cette bonne phrase, il dit que les fake news, c'est pas le combat de la réalité contre le mensonge, mais la vérité contre le mensonge, ça c'est un combat très très vieux. C'est beaucoup plus dur que ça, les fake news, c'est la négation même de l'idée de vérité. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'un tiers de confiance pour arriver à peut-être poser des limites. Moi qui suis hyper libéral, ultra-libéral, c'est négatif, hyper libéral, je commence à me dire que peut-être qu'il va falloir, pour un État, on a besoin d'un État ou d'une entité à qui on délègue une forme de cette capacité à pas limiter la capacité d'expression, mais de donner des structures et de mettre des garde-fous. C'est le grand enjeu, à mon avis, des années qui viennent.
Mais je vous emmène ailleurs, Olivier et vous autres. Je vous emmène sur moi, consommateur. Je voudrais recentrer sur Dawn et ses 2000 fournisseurs qui a des données un peu partout. Est-ce qu'à un moment, Dawn n'aura pas l'envie que ces données, à minima, elles sachent où elles sont, ce que nous donne le RGPD, mais ce que la technologie ne nous donne pas encore, ni les acteurs, mais qu'on sache où elles sont, voire qu'elles puissent les manipuler et les transférer, puisque c'est ces données,
Christophe nous disait, les données ne nous appartiennent pas à nous, l'INSO, elles appartiennent, c'est bien fondamental. Moi, en tant qu'utilisateur, client de l'INSO, à un moment donné, là, je vais faire pas, à un moment donné, j'aimerais bien que les 3 ans d'historique que tu as sur tous mes comptes, parce que je suis plus content de l'INSO, j'ai envie de passer sur Lydia, je puisse les transférer facilement. Je sais que c'est là, je sais que c'est facile. C'est mes données, après tout. Donc, ce tiers de confiance qui pourrait avoir la capacité d'héberger plutôt que l'INSO, l'INSO ne serait pas que l'intermédiaire qui donne un service sur ces données et qui me laisse toute la liberté de savoir à qui je donne accès à ces données. Je fais publicité parce que c'est une petite commune, j'avais fait pareil dans les Échos il y a un an et demi, et vers l'Amadeus de la donnée. Est-ce que finalement, ce n'est pas une tendance qui pourrait répondre à la fois à ce besoin de personnalisation et de maîtrise de ce qui est partagé sur moi, consommateur?
Alors, pour répondre à ta question, on permet déjà de transférer les données. On a une technologie qui s'appelle l'INSO Connect, qui permet déjà à un utilisateur de transférer toutes les données qu'il a chez l'INSO, chez un tiers. On le fait par exemple avec un crédit avec Yellow, pour gérer son patrimoine, pour gérer sa comptabilité. Donc, on permet déjà de le faire. On permet de faire ça. On permet aussi à des acteurs qui n'ont pas encore accès à la donnée, Geoffroy était là tout à l'heure de United Credit, de fournir cette donnée à leurs clients pour leur faciliter la vie et savoir exactement ce qu'ils en font. Parce qu'en fait, du partage de données, en fait, il y en avait déjà dans l'univers financier, ça existait. Ce n'est pas du tout nouveau. Un crédit conso, tout à l'heure Geoffroy en parlait, un crédit IMO, vous alliez récupérer l'intégralité de vos relevés, papier ou PDF, et puis vous envoyez ça à un courtier qui lui-même envoyait ça à N banque. Donc la donnée, en plus, on ne savait même pas où elle était. Il y avait peut-être même des choses qui étaient faites de ce truc-là, on ne sait pas où ça s'est. D'ailleurs, ce qui pose des sujets dans d'autres cas. Aujourd'hui, ça apporte quand même ça, c'est que, un, je sais à qui je les envoie, deux, ces données-là, elles sont structurées et elles sont fournies par un acteur sur lequel il y a un gendarme, au-dessus duquel il y a un gendarme. Le CPR, c'est le gendarme de Damien, c'est le nôtre. C'est pas, voilà, quand on dit c'est qui le gendarme de Google ou d'Apple ou de Facebook, là, on se tourne, on ne sait pas qui va dire tout. Chez nous, vous savez pour faire tout tourner. Et on a des audits à la fois de nos clients, qui sont aussi des banques, de la CPR. On fait effectivement aussi d'autres audits via des sociétés tierces pour tester ça. On est en cours d'homologation sur un niveau très très élevé de sécurité aussi, pour vraiment le marquer. Mais voilà, en fait, ça offre aussi une traçabilité qui n'existait pas avant. Et ça, c'est quand même un plus dans l'univers financier.
Alors c'est intéressant, Christophe, parce que vous, quand même, vous êtes en prise avec la vraie vie. Aussi, hein, vous voyez tous ces flux passer, et je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais eux, ils voient tous les paiements de tout le monde, les listes de mariage, etc. Vous êtes en prise, et du coup, vous avez des clients, vos 3 millions de clients, certains, comme cette pop-up, vous demandent d'effacer les données, d'autres vous demandent de transférer les données. Est-ce que vous voyez, mois après mois, année après année, une certaine tendance, prise de conscience, plus de gens qui demandent d'effacer, plus de gens qui demandent de transférer?
Alors, pas forcément plus de gens qui demandent d'effacer et plus de gens qui demandent à transférer parce qu'on leur permet de le faire maintenant plus facilement. Il y a l'INSO Connect justement. Donc, ça, et puis il y a un mouvement de fond qui est. Il faut se faciliter la vie, en fait. Et parfois, typiquement, on parlait tout à l'heure du crédit immobilier, on travaille avec des courtiers, enfin, c'est d'une complexité. Juste pour aller récupérer ses pièces, les envoyer, etc. C'est juste, et en plus, c'est pas toujours 100% fiable. Nous, quand la donnée est récupérée de la banque et transférée, on sait que c'est une vraie donnée. C'est pas une donnée d'un prêt qui a été falsifié ou un relevé de compte sur lequel j'ai fait du Photoshop. Donc, ça apporte quand même ce niveau-là, et en fait, la tendance, c'est juste sur l'aspect financier, je ne parle pas forcément des autres secteurs que je ne connais pas, mais c'est de se dire, en fait, on le faisait déjà avant, pourquoi on ne le ferait pas de manière plus sécurisée, en sachant qui a les données, auprès de qui je les transfère, et qui sont ces gens, est-ce qu'en plus, ce sont des gens qui ont une autorité de contrôle dessus. Donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a apporté la réglementation, il y a son lot de contrats, mais il y a son lot de. Voilà, on sait qui est le gendarme. On sait que ce sont des entités qui sont contrôlées, régulées, et ça apporte un réponse.
Alors, la tendance qu'on voit, c'est l'éducation financière des gens. C'est-à-dire qu'on apprend toute la journée aux gens à répudier les transactions. C'est leur droit. Il y en a pas assez, on n'en fait pas assez la publicité. Si vous l'achetez à distance, si vous n'êtes pas satisfait du bien ou du service que vous avez reçu, Vous êtes plus de 12 mois pour répudier vos achats. Il faut en profiter. On passe notre temps aussi à aider les gens à solutionner les cas de fraude. C'est une course contre les fraudeurs. Et nous, tiers de confiance, souvent, on a gardé l'argent parce qu'on a bien vu que finalement, le fraudeur, il nous a envoyé un autre Wikiban pour rembourser, pour envoyer l'argent sur un compte finalement qu'il a réussi à, dans lequel il a réussi à pénétrer. Vous voyez, donc une pauvre dame nous appelle, ou son fils, en disant « je ne comprends pas bien, il y a ces débiles-là qui sont arrivés sur le compte bancaire. Où est l'argent ?» Heureusement, l'argent est chez nous. Mais on allait le verser sur un Wikiban qui était différent, donc on ne l'avait pas fait. Donc on a gardé l'argent. Donc ça sert à ça. Et donc la tendance que je vois, moi, c'est beaucoup de fraude dans ce monde de l'Internet, avec une éducation. Les gens comprennent pourquoi, finalement, il faut faire... Il faut payer avec un SMS, avec une authentification forte, etc. Il y a, je pense, une éducation qui est en train de se faire.
Alors, Olivier, Isabelle, j'aimerais terminer avec vous avant qu'on ouvre aux questions. Cette notion de tiers de confiance très, très étendue, c'est-à-dire qui va au-delà des données financières, mais qui nous permettent de stocker aussi mes données de consommation, mes playlists sur Spotify que je veux transférer un jour sur Deezer, mes commandes de bouquins sur Amazon que je peux donner à la FNAC, etc. Est-ce que vous y voyez une tendance qui peut avoir un sens et une réalité technologique qui pourrait se mettre en œuvre à un moment donné où la croissance de la donnée, nous l'a dit, est exponentielle?
Je pense que les secteurs dont on a parlé sont des secteurs sérieux, régulés. Et voilà. La question de est-ce qu'on veut... d'abord, où s'arrête le métier du commerçant? Si on prend la donne qui veut qu'on lui propose des produits qu'elle a envie d'acheter pour que ça aille plus vite, etc. Est-ce que c'est aussi la qualité du site web ou de l'intervenant de réussir à lui proposer ses choix? Donc à partir du moment où elle emmène ses données, est-ce qu'il va falloir réinitialiser le système de l'autre côté? Je ne suis pas sûre que ça aille si vite que ça. Et donc c'est aussi un moyen de capturer le client qui va par facilité rester là où il a l'habitude d'avoir ses données. Ensuite, sur les transferts effectifs, techniquement, c'est quand même très compliqué. Si vous prenez n'importe quel domaine, ça veut dire qu'il faut avoir des normalisations de données et qui, aujourd'hui, n'existent pas au sein de très grands groupes. Il y a des très grands groupes, pétroliers, chimiques, etc., qui ont des divisions de par le monde, dans lesquelles ils n'ont pas de normalisation de données en interne. Ils n'arrivent pas à transférer d'une branche à l'autre. Donc de là à réussir à ce que Amazon, gentiment, quand vous dites « je n'aime plus Amazon, donnez-moi mon historique s'il vous plaît, je m'en vais chez un concurrent », le fasse gentiment et ouf. Je suis assez sceptique sur le sujet.
C'est pourtant ce que lui demande le régulateur dans la GDPR.
C'est déjà pas très facile à faire. Parce que ça veut dire qu'il faut un historique, un format, etc. Il faut la volonté de le faire. Il faut donc que les entreprises investissent pour quelque chose quelque part qui va leur faire perdre des clients. C'est un peu compliqué, c'est un sujet un peu compliqué et un petit peu. La loi est un peu en avance sur la technologie, en tous les cas, pour que ce soit largement diffusé dans tous les domaines. Et il y a des secteurs sur lesquels, par contre, ça n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, il y a des exceptions dans la GDPR sur les données de santé. Vous ne pouvez pas retirer l'utilisation de données de santé lorsqu'elles sont utilisées dans un but de santé publique. Donc il faut aussi laisser des choses comme ça, puisqu'on parlait tout à l'heure de lutte contre la fraude internationale, le terrorisme et autres. Il faut laisser des portes ouvertes, ou des garde-fous plutôt, pour que l'utilisateur ne soit pas complètement transparent, anonyme et ne puisse pas se faufiler partout.
Oui, tout à l'heure je disais qu'on se fichait. Le consommateur se fichait de sa vie privée. En réalité, on s'en fiche exactement comme quand vous prenez l'avion, on se fiche du nom du pilote, du type de moteur. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs, est-ce que vous avez vérifié que le pilote a bien son brevet, que le moteur est solide et que les ailes tiennent bien? Non, pourquoi? Parce que vous faites confiance. Vous faites confiance à quoi? À la compagnie, à l'État qui délivre des autorisations. Et donc ça vous permet, alors certains sont quand même stressés quand ils prennent l'avion, mais personnellement ça me permet de prendre l'avion en étant totalement détendu. Pas parce que je m'en fiche, parce que j'ai confiance dans le fait qu'il y a quelque chose quand même à la fin, comme un sol dur qui garantit en dernier ressort la sécurité. Je crois que c'est la même chose. Si on est si cool sur Internet, c'est peut-être que sur les paiements, on sait que bah, c'est vrai que s'il y a un problème, j'ai constaté une fois ou deux quand on parlait de cartes, c'est hyper rapide, c'est vachement bien fait, argent restitué, ouf, on a peur sur le moment, mais donc, ça rassure beaucoup. Et c'est peut-être la condition pour qu'Internet ait pu se développer. Car au départ, on disait que les gens étaient très inquiets de leurs données, Et donc, en fait, finalement, ils l'ont fait. Ils ont fait confiance et ça marche pas mal. Tant qu'ils n'ont pas de gros problèmes, il y a quand même qu'il y a eu un problème d'usurpation d'identité. Très, très grave. Le type a réussi à avoir un dossier immobilier qu'il avait envoyé, en gros, de façon un peu légère, un truc un peu classique. Et en gros, il s'est fait. Il s'est aperçu qu'il avait acheté une grosse voiture à crédit. Évidemment, qu'il n'avait jamais fait. Heureusement que les gars avaient vérifié, mais ils étaient à deux doigts de le faire. Et là, dans ce genre de cas, je pense que vous devenez très conscient. En fait, la plupart des gens, par défaut, font confiance, et on a besoin, évidemment, de ce tiers. Le petit danger qu'il y a, c'est qu'on arrive à un moment de crise démocratique où l'État n'est pas complètement le tiers de confiance qu'il a pu être, peut-être. Paradoxalement, on peut peut-être plus faire confiance, c'est le retour de la marque, l'importance de la marque. C'est actif, des grandes sociétés qui sont présentes depuis longtemps, on se dit, voilà, peut-être que Air France, puisqu'on parlait de compagnie aérienne, que cette marque, on peut lui faire confiance et pour nous, on a besoin d'une sorte de personnalisation, d'incarnation pour nous de ce que c'est qu'une marque en tant que tiers de confiance. Évidemment, on attend à ne pas être déçu. Donc il peut y avoir de très 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 mauvais bad buzz sur une marque qui pourrait ne pas avoir rempli ce contrat. Je crois que de plus en plus, Internet va être extrêmement attentif à ce rôle de tiers de confiance qui vraiment est pas seulement public. Pour moi, les gens ne font pas de différence. Fondamentalement, une grande entreprise, pour eux, ils attendent la même capacité à garantir la sécurité en dernier ressort et puis le type de service. Alors là, on est sur un gros groupe, l'État, le tout dernier ressort. Mais il y a ce rôle-là chez les entreprises.
Très bien, merci, merci Olivier. Peut-être qu'on peut ouvrir aux questions. Vous en avez ?
Oui, donc sur le dernier point qui est ce qu'on perd confiance, aujourd'hui il y a deux gros acteurs, Google et Facebook, qui captent la majeure partie de la valeur des données. Et donc, qui peut avoir une chance de les affronter et de gagner, en tout cas de s'imposer, avec un modèle différent sur la valeur des données est-ce que c'est un État ? Est-ce que c'est une société privée ? Donc peut-être que Apple peut proposer ça et venir se positionner là-dessus parce que son business model est différent. Et donc, pour l'instant, on ne voit pas du tout émerger, en tout cas, c'est un constat, détrompez-moi si vous avez d'autres vues, on ne voit pas du tout émerger d'acteurs qui ont un business model alternatif permettant de challenger ça, cet état de fait de Google. Sauf si vous envoyez, une question, est-ce que vous envoyez d'autres ?
Pour répondre, c'est évidemment une question vertigineuse. Le grand problème de notre époque, c'est qu'on a pensé, encore une fois, que Internet allait donner sa chance à toutes les entreprises. Alors, au contraire, il a créé un monde biface avec des seigneurs et des vassaux. Les seigneurs, c'est les plateformes qui sont le passage entre l'offre et la demande. Le métier de Google et Facebook, c'est d'être la porte d'entrée sur le monde de tous les consommateurs et d'être la porte d'entrée du monde sur le consommateur. Ils font payer dans les deux sens, tout simplement. Et quand vous avez le monopole de l'accès, vous avez le pouvoir. Une référence historique, enfin Charles Martel, quand il a pris le pouvoir sur les Mérovingiens, en fait c'est tout simple, hein, il était maire du palais. Le maire du palais, c'est celui qui contrôle ce qui se passe, il contrôle la logistique. Et donc, lui, puis Pépin le Bref, puis son petit-fils, évidemment Charlemagne, ils ont pris le pouvoir et ils ont rasé le pauvre dernier, et ainsi tué les Carolingiens. Quand vous avez l'accès, vous avez le pouvoir, en fait aujourd'hui, à cause de la loi de Metcalf, hein, de la loi sur l'utilité des réseaux, le plus grand réseau est celui sur lequel vous avez intérêt à y aller. Si vous voulez aller sur un réseau de rencontres, vous allez sur Tinder, vous allez y aller parce que vous pensez qu'il y a plus de monde possible là-bas, ça maximise vos chances de rencontre, et donc ça va être le plus grand, et donc ça va être en effet le plus efficace, etc. etc. Cet effet boule de neige, il est terrible, et aujourd'hui, en réalité, on ne peut pas vraiment en sortir.
Je peux me faire
un compliment.
Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre que ça traumatise le consommateur final. Alors, encore une fois, vous dans la salle, oui. Mais quelqu'un qui va sur Google, le fait de savoir que, s'il a sa réponse, le fait de savoir que Google se sert de ses données pour prendre de la valeur et gagner de l'argent, je ne suis pas convaincue que ça le traumatise. Ça traumatise les politiques, les entreprises, le deuxième niveau. Et donc les gens continuent à y aller. Et après, je suis d'accord, le phénomène d'entraînement, c'est qu'on est parti tellement tard Il y a des modèles qui peuvent le faire, la Chine peut le faire. La Chine peut à un moment décider, je coupe l'accès à Google, je coupe l'accès à Facebook, et je mets mes outils à la place. On est en Europe, dans un endroit où on n'a pas un très bon marché, on a quand même une certaine notion des libertés et également des droits des citoyens qu'il faut répartir. Ce qui fait que se mettre sur le même plan qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Enfin, ce qu'on peut espérer, peut-être, je suis utopiste, c'est que le prochain service, la prochaine rupture, elle soit différente et qu'on ne rate pas le train de démarrage.
Bonjour. Est-ce qu'un aspect du problème, ce n'est pas que justement un moteur de recherche, un réseau social, maintenant c'est devenu incontournable et donc c'est un bien commun. Je ne veux pas parler de service public, mais...
C'est un bien commun, mais ça coûte à faire tourner. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui les États-Unis sont prêts à nationaliser Google, mais non, les formes de fiscalité qu'il faut modifier, c'est aussi un moment où la technologie, elle est en avance sur ce qui s'est passé. Mais c'est très compliqué aujourd'hui à capter.
Le sursaut peut venir quand même de l'Europe. Moi, j'ai toutes les semaines de bonnes nouvelles de l'Europe. Là, j'ai réalisé, par exemple, qu'en décembre, ils ont lancé un règlement qui dit que n'importe quel site de crowdfunding en Europe peut agir dans l'Europe entière. Et c'est un règlement, ce n'est pas une directive, donc ça s'applique tout de suite. C'est-à-dire que l'Europe a conscience de tout ça. L'Europe a conscience qu'on utilise tous des cartes Visa ou Mastercard dans le paiement qui sont américaines. L'Europe a conscience qu'il faut bouger les banques, regarder ce qu'elle a laissé faire aux agrégateurs, c'est très bien. Donc, elle impose à toutes les banques d'avoir une API pour lui donner des données. Pas vrai ? Ça marche. Donc, l'Europe marche. L'Europe est en marche. Elle peut nous aider à venir challenger ce duopole Chine-États-Unis.
Oui, votre question est vraiment très, très pertinente. On est là dans une contradiction terrible. On aurait eu besoin que l'État invente Uber face à l'Uber national et qu'on puisse en permanence que tous les chauffeurs soient tous sur la même API, qu'il y ait une seule API. Qu'elle soit hyper efficace et qu'on puisse de partout aller sur les VTC. Sauf qu'il ne l'a pas fait, sauf que les taxis, au contraire, n'auraient jamais innové sans ça, si la PG7 existe parce que Uber est arrivé. Et c'est le grand drame. En effet, ces réseaux ont une forme de monopole naturel.
Et de la part d'un libéral, je suis un peu surpris que vous attendiez quelque chose de l'État.
Mais justement, non, mais c'est ça, le problème, c'est que ça a une forme de service public. C'est devenu nécessaire, c'est un service à tout le monde, etc. Sauf que si vous le laissez à l'État, ça deviendra une administration complètement sclérosée. Donc c'est pas possible.
Merci beaucoup. Si je peux me permettre un petit point de commentaire supplémentaire, qu'est-ce qui peut vaincre un GAFA ? Le GAFA lui-même. Je parlais tout à l'heure de ringardisation. Regardez ce qui se passe sur Facebook qui se ringardise chez les moins de 15 ans, ça va extraordinairement vite. Et donc, comme c'est le comportement, la mode, la génération qui gouverne, ça va extrêmement être deuxième élément. Moi, je suis plus vieux que vous, j'ai connu déjà des sortes de GAFA qui allaient bouffer le monde entier. Exemple, les TNT dans les années 90, une réglementation antitrust et tout explose. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de forces vives qui concourent à ça. Et puis après, il y a l'offre alternative, effectivement. On est toujours le premier marché de consommation financière dans le monde, l'Europe. 500 millions de consommateurs solvables. Après, il faut qu'on sache fabriquer, encore une fois, des barrières intelligentes au service du consommateur et des citoyens, des investissements qu'on n'a pas. Mais moi, je fais partie, comme toi, Damien, de ceux qui pensent que quand on a une vision historique, c'est jamais perdu, surtout quand c'est souvent. Merci beaucoup à tous. On va passer au dernier moment.
Merci Isabelle, Thierry, Damien, Christophe et